Bonsoir et merci de nous rejoindre dans la tribune de presse de ce vendredi 12 février 2016. Ce soir, nous allons analyser l'élection à venir des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces. C'est le président de la CENI qui a annoncé cette élection mercredi 10 février dernier lors de la cérémonie du lancement d'appel d'offres international pour l'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs. Et puis nous parlerons des léopards qui ont été fêtés en héros à leur arrivée à Kinshasa. Ils ont remporté, vous le savez, la Coupe du Chan Rwanda 2016. Rappelons que les léopards ont dévoré les aigles du Mali sur un score sans appel de 3-0. Quels enseignements tirés de la prestation des Congolais? Nous en parlons justement avec, dans ce studio, Joël Kadedanga, éditeur responsable du journal Impact News, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Joël, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère.
John Ngomboa, directeur des informations à Antenne A, une télévision privée émettant à Kinshasa. John, bonsoir.
Salut mon frère, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi à travers le pays et bien loin du pays.
Et Georges Kasongo, journaliste à la radio Hakiza Binadamu, une radio qui émet à Kindu au Maniema. Georges, bonsoir.
Bonsoir, chers confrères. Bonsoir à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Et les débats de la tribune de presse de ce soir s'ouvrent avec la revue de presse qui porte la signature d'Alain Hirung, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par le calendrier électoral publié par la CENI pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces. Le quotidien L'Avenir annonce le calendrier aménagé de l'élection des gouverneurs. La MP affûte ses armes. Le confrère révèle que lors d'une réunion organisée jeudi par l'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila, les têtes couronnées de cette famille politique, ont mis en place des mécanismes pour gagner démocratiquement l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces. Et ce, explique le tabloïd, après l'élection des bureaux définitifs des différentes assemblées provinciales, car la MP se veut respectueuse des décisions de la CENI, qui est une structure indépendante. C'est ce que corrobore le journal Forum des As sous le titre « Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, la MP entend rafler tous les postes ». De son côté, la tempête des tropiques note que le calendrier publié par la CENI suscite des remous. Et de poursuivre que des Congolais craignent de voir les autres échéances électorales jetées dans les oubliettes. Parlons de la victoire des Léopards au Chan Rwanda 2016. Le journal L'Avenir signe en manchette Chan Rwanda 2016, les Léopards sacrés champions pour la deuxième fois. Nettement dominatrice face au Mali par 3-0, précise le tabloïd, la RDC a remporté la finale du Chan 2016 dimanche dernier à Kigali devant un stade à Maoro, largement acquis à sa cause, devenant ainsi la première nation à remporter la compétition pour la deuxième fois après son sacre de 2009. Le quotidien Le Phare embouche la même trompette après Abidjan 2009, la RDC de nouveau sur le toit de l'Afrique. Aussi, le journal La Prospérité embraye sur la victoire des Léopards et renseigne que Franck Diongo promet d'interpeller Bochab. Dès la rentrée parlementaire de mars 2016, et pour cause, il veut savoir d'où est venue la décision d'interdire aux Quinois d'exprimer leur joie alors que les Léopards venaient de remporter la coupe. Terminons par quelques autres sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. En économie, le potentiel souligne que la RDC renonce à modifier son code minier. Le confrère évoque aussi le décès de maître Omar Ilea Sissi, ancien gouverneur de la province du Maniema et de l'actuelle province du Congo central, qui a tiré sa révérence mardi dernier. Que son âme repose en paix.
Merci Alain Hirung. Dans l'actualité de la semaine, il y a aussi l'appel de la société civile des groupements Tama et Ditala au sud de Lubero pour la tenue d'un dialogue social entre Nandé et Hutu. Objectif, mettre fin à la violence entre ces deux communautés. Dans un communiqué de cette semaine, la structure citoyenne dit avoir documenté une vingtaine de personnes tuées et des centaines de maisons incendiées depuis décembre dernier. Alors, Joël Kadé, comment vous avez analysé ce conflit entre Hutu et Nandé?
Bon, c'est le conflit qui est à la base tous ces jours ici de massacres en grand nombre dans les territoires de Beni. Vous vous rappellerez, nous sommes déjà au-delà de 1000 personnes. Malheureusement, ils peuvent tenir le dialogue au niveau local, mais les tireurs des ficelles de ces massacres se trouvent à Kinshasa, se trouvent en Ouganda, se trouvent au Rwanda. Il faudrait que vraiment que le gouvernement congolais ait la volonté de sécuriser sa population, de sécuriser le bien, parce que c'est le rôle qui leur revient au lieu de préparer la guerre urbaine avec les matériels anti-émeutes. Je pense qu'il y a lieu de se concentrer, de se consacrer à restaurer la paix au Nord Kivu, où nos frères sont tués chaque jour et ils se sont déplacés. D'autres personnes pourront les remplacer à ces endroits-là. Donc c'est très pénible. Je soutiens vraiment l'idée du dialogue, mais il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités.
D'accord. Alors, John Gombwa, est-ce que vous pensez que l'appel de la société civile locale est suffisante pour une accalmie durable?
Non, je ne pense pas que la voix de la société civile locale soit assez forte pour porter et amener les décisions de manière urgente. Moi, je crois que il faut une dynamique au niveau national pour pouvoir mettre un terme à tout cela, parce que c'est autant grave que la violation de la Constitution. Je vois des gens qui s'émeuvent pour ça. Mais entre la violation de la Constitution et ces meurtres en cascade, je ne sais pas si on a le choix. Nous sommes en train de tomber dans une forme de banalisation de la mort. Et c'est très, très dangereux. Aujourd'hui, les morts dans l'Est, les chiffres, ça se compte en chiffres avec 2 ou 3 zéros. On dirait que la vie humaine n'a plus de valeur là-bas.
D'accord.
Alors, il faut, à mon sens, une prise de conscience au niveau national et une dynamique nationale pour mettre un terme à ces tueries récurrentes.
Et donc, vous rejoignez Joël Cadet qui parlait justement de cet appel de dialogue social. Alors, Georges, vous qui êtes non loin de Goma ou du Nord Kivu, dans certains milieux, comme l'a affirmé ici Joël Cadet, on affirme que ce conflit entre Nande et Hutu est entretenu par les politiques. Est-ce que vous partagez cette affirmation?
Voilà, cette affirmation reste discutable, d'autant plus que la cohabitation, les Lubero, les Nord Kivu, comme je connais parfaitement la contrée, c'est un conflit qui date de très très longues années jusqu'à se perdre. Mais ce qui est tout ce que nous pouvons dire, proposer comme solution, ces dialogues-là, parce qu'au niveau de Goma comme au Nord Kivu, il y a ce qu'on appelle les bazars intercommunautaires, donc il faut rouvrir, réactiver les mécanismes de pacification des ethnies établies, disons, à l'est de la République et plus précisément au Nord Kivu. Mais en outre, ce qui est là, ce que nous trouvons un peu nécessaire, c'est de renforcer l'autorité de l'État dans ces endroits-là, et, disons, dans ces points chauds. Il faut renforcer l'autorité de l'État. Et imaginez dans un endroit où les civils trouvent le temps à chercher les armes blanches ou bien à trouver des armes, s'entretuer du matin au soir et que jusqu'au soir, il n'y a pas une solution, c'est que quelque part, l'État se sent soit éloigné ou comment, mais nous pensons que la véritable solution, c'est de renforcer la présence des... Bon, on ne peut pas placer les hommes armés à chaque mètre carré, mais toutefois, nous pouvons renforcer la présence de l'État dans ces endroits-là névralgiques.
Et vous avez proposé aussi le réchauffement des barzas intercommunautaires. Alors, puisque vous avez la parole, qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'actualité chez vous à Kindu?
Bon, au Maniema, c'est cette, disons, triste nouvelle, la mort de l'ancien gouverneur Omar Eliassis, que moi, personnellement, je n'ai pas connu. J'avais l'âge vraiment des maternelles lorsqu'il était encore ici. Vraiment, je n'ai pas de gros souvenirs, mais nous voyons vraiment, ça se discute partout. On parle et même de voix qui se sont levées pour dire qu'il serait mieux que Omar Eliassis, maître Omar Eliassis, soit enterré au Maniema, parce que tous ceux qui ont dirigé le Maniema en tant que gouverneur, aucun d'entre eux n'a jamais été enterré au Maniema. Alors il y a même des voix qui proposent qu'il soit enterré au Maniema.
D'accord. Alors c'est justement ce qui fait aussi la deuxième actualité que nous allons commenter rapidement. John, qu'est-ce que vous retenez de l'illustre disparu?
Oh, je retiens de lui un homme imposant par sa stature déjà, ensuite par son tempérament et par son caractère. Et au-delà de tout, quand même, monsieur bien vivant et bon vivant et cordial. J'ai eu dans ma carrière professionnelle à les côtoyer. Là, c'était déjà sous le régime Mobutu, et puis avec le MPR rénové, ainsi de suite. Donc, mais c'est quelqu'un qui était une pièce qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui était franc et direct, et aussi comme son jeune frère Constant Marie, aussi impliqué dans le sport.
Merci beaucoup. On rappelle que Maître Omar Lé Assisi est décédé depuis mardi dernier. Il était aussi député national pendant la transition 1+4, juriste de formation. Il faisait partie de l'équipe des rédacteurs de l'actuelle Constitution. J'y suis. Alors, Joël Kadé, de plus en plus, il y a quand même des grandes personnalités qui s'en vont. Qu'est-ce que la RDC peut garder de ces personnalités? On pense aussi à Maître Gérard Kamanda, qui nous a quitté il n'y a pas longtemps.
C'est exactement ce que je voulais dire, que l'année 2016 a très très mal commencé avec la perte de grandes bibliothèques au sens politique et l'histoire de notre pays, de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, c'est Maître Omar Lé Assisi qui vient de s'en aller. Paix à son âme, profitant de l'occasion pour présenter mes condoléances à toute sa famille. J'aurais voulu que ces gens qui meurent, ils partent malheureusement avec tout ce qu'ils ont. Notre classe politique n'a pas cette habitude de laisser les mémoires. Ils partent avec tout ce qu'ils ont fait dans ce pays, ils partent avec toute leur expérience, ils partent avec toute leur expertise, et pourtant ils pouvaient avoir l'occasion de coucher ça par écrit pour que ça serve aux générations futures. Malheureusement, nous avons le Kitima bin Ramazan qui est parti sans mémoire. Vous l'avez, il vient de partir sans mémoire. Il y a également Kamandawa Kamanda, ancien secrétaire général adjoint de l'OUA, qui est parti sans avoir laissé les mémoires. J'exhorte quand même à tous ceux, des politiciens qui sont dans leur troisième âge, à qui Dieu a fait grâce de remplir d'années, qu'ils s'exercent un peu à cette pratique d'écrire quand même les ouvrages, laisser l'histoire écrite par les Congolais, que l'histoire du Congo soit écrite par les Congolais eux-mêmes. C'est vraiment mon souhait pour tous les politiques.
Et Tribune de la Presse présente les condoléances à toute la famille de l'illustre disparu. Nous voici dans le premier thème de la soirée qui concerne le processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante remet la machine en marche avec les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces fixées au 26 mars prochain. C'est ce qu'a annoncé le président de la CENI mercredi 10 février 2016 à Kinshasa, Corneille Nangaa, a fait cette déclaration lors de la cérémonie du lancement d'appel d'offres internationales pour l'acquisition de kits d'enrôlement des électeurs. Plus d'éclairage avec vous, Paul Matendo.
Pour Corneille Nangaa, la CENI vient de faire sauter deux verrous qui bloquaient les processus électoraux en RDC.
La CENI a reçu un engagement ferme du gouvernement pour le financement des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. C'était le premier facteur bloquant. Les règlements intérieurs de 21 assemblées provinciales sont jugées conformes à la Constitution. Ces deux verrous levés, en conséquence, la CENI vient de décider de l'organisation de ces élections.
Quant à la question du respect du délai constitutionnel, les présidents de la CENI évoquent un préalable majeur, la révision du fichier électoral.
La révision du fichier fait partie intégrante d'un calendrier. Ce sont des activités qui se succèdent et qui sont telles que vous ne ferez pas l'activité suivante si vous n'avez pas terminé la première. Et le point de départ, c'est le fichier.
Pour ce faire, le numéro 1 de la CENI demande à toutes les parties prenantes de cesser d'exercer toute pression sur son institution.
Que ce soit le gouvernement, que ce soit les partis politiques, laissez-nous tranquilles pour jouer ce rôle-là. Que ce soit les partenaires, laissez la CENI parce qu'elle a un mandat constitutionnel.
À propos de l'appel d'offres internationales du kit d'enrôlement, Corneille Nangaa a présenté à la presse les spécimens d'une nouvelle carte d'électeur.
Merci Paul Matendo, et je rappelle que la tribune de presse de ce vendredi 12 février reçoit John Ngomboa, directeur des informations à Antenne A, une télévision privée qui émet ici à Kinshasa, Joël Kadedanga, éditeur responsable du journal Impact News, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa, il est dans ce studio, et Georges Kasongo, journaliste à la radio Hakiza Binadamu, une radio qui émet à Kindu dans la province du Maniema. Alors messieurs, je vais vous poser une question rapidement. avant d'ouvrir les débats. Comment avez-vous jugé cette annonce de la CENI? On commence par vous, Joël Kadi.
Bon,
très rapidement.
Il fallait que ça vienne. Nous l'attendions depuis longtemps. Je crois que c'est opportun.
Et vous êtes satisfait?
Bon, entrer dans mes sentiments, non.
Alors, John, vous trouvez aussi opportun la publication de ce calendrier? En un mot.
Bon, disons que pour moi, c'est plutôt un non-événement.
Alors, Georges Kassongo, à Kindu, comment vous avez accueilli ce calendrier?
Bon, nous, jusque-là, nous continuons à croire qu'il y a des choses qui marchent à volo. Il manque vraiment des planifications et des structurations des actions dans l'action ces derniers temps. Parce qu'on ne comprend plus rien, comment ça marche, d'où on va. Bon, finalement, ça laisse un certain scepticisme plane dans les esprits. Vraiment, on n'est plus trop rassurant, trop confiant. Tantôt, c'est l'argent qui manque, tantôt, c'est le calendrier qui sort vraiment. Jusque-là, les peuples sont lancés dans un état de scepticisme vraiment généralisé ou presque.
Et c'est ça votre analyse de cette publication du calendrier électoral?
Bon, concernant ce calendrier électoral qui il manquait, bon, on ne sait pas si les gouverneurs élus vont travailler pour combien de temps. On disait qu'il manquait l'argent pour ces élections, tantôt c'est l'argent qu'on va commencer par là, pendant que l'argent pour organiser les présidentielles manque encore. Nous voyons que la CENI, bon, sans pression sur la CENI, mais nous pensons également que la CENI joue un jeu qui, à court terme, va clairement dévoiler son secret. On ne sait pas pour qui ce jeu va profiter, mais nous voyons que la CENI, vraiment, il fallait que ces I, les derniers I de la CENI, I là, l'indépendance doit soit affichée. Sinon, on ne sait pas si ces I là seraient en minuscule ou en italique, on ne comprend plus rien. Mais nous souhaiterions que la CENI vraiment fasse son travail en toute indépendance, impartialité et surtout cette liberté d'esprit qui doit animer les animateurs de la CENI.
D'accord. Alors, John, est-ce que vous partagez cette analyse que vient de nous faire Georges?
Bon, à certains égards, hein, parce que il est vrai que on y perdrait son latin à suivre les cheminements de la CENI. Un jour, il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Un autre jour, on annonce et des buts en blanc, un calendrier. Alors, disons que moi, personnellement, je ne suis pas surpris de cela parce que le tout procède d'une logique clairement compréhensible, quoi. Voilà.
Alors, Joël, vous qui êtes avec nous dans ce studio, quelle analyse faites-vous de la publication de ce calendrier? Partant de ce que Georges et John ont dit.
Partant de ce que mes deux confrères ont dit, il faut relever une chose. Le président de la CENI l'a dit, qu'il y a des pressions exercées sur la CENI. Et ces pressions viennent notamment du pouvoir, il a parlé du gouvernement, où vous sentez que la manipulation ou les pressions exercées sur la CENI font partie pratiquement de ce que l'on appelle une stratégie du glissement ou une stratégie du chaos qui est en train d'être plantée, une stratégie de l'inanition de la nation. Parce que vous comprendrez par exemple, ici où nous sommes, et je ne veux pas rentrer dans ce qu'ils ont déjà dit, manque d'argent, perte de vitesse, mais vous allez vous rendre compte que un député ayant déjà dépassé deux fois son mandat a perdu sa légitimité. Donc, les députés provinciaux qui vont élire les prochains exécutifs, ils ont déjà perdu leur mandat parce qu'ils ont dépassé deux fois leur légitimité. Et ils ne sauraient transmettre ce qu'il n'a plus à un gouverneur. Des deux, l'écrasante majorité des députés provinciaux a changé de parti politique. Certains, lors des dernières législatives de 2011, ils avaient déjà changé leur parti politique. Et donc, dernièrement, lorsqu'il fallait qu'ils déposent leur candidature aux élections provinciales du premier calendrier global qui a été remis en cause. Ils ont ainsi constitutionnellement perdu leur mandat et devraient en principe être remplacés depuis longtemps par leur suppléant. Malheureusement, les élections n'auront donc
ni légitimité ni légalité, les nouveaux gouverneurs vont entraîner une pluie de contestations sans avoir, en conséquence, une assise suffisante pour gérer les entités qui ont besoin d'un leadership solide pour décoller en plus. Il se pose la grave question de l'opportunité. En effet, le but inavoué du découpage précipité des provinces semble s'identifier de plus en plus à la complication de la territoriale pour allonger le processus électoral. Aujourd'hui, par exemple, je voudrais
ajouter par là.
Aujourd'hui, un mois après la lente et coûteuse installation des commissaires dits spéciaux, on lance le processus de leur remplacement. Ainsi, si on compte qu'en 2015, les nouvelles provinces ont vu le jour, qu'en mai 2016, il y aura des nouveaux gouverneurs provisoires qui ne seront que pour une petite période pour attendre les élections provinciales. Donc, dans un bref délai, à Bandakabouni, à Chikapa, donc, on veut verra défiler 4 exécutifs provinciaux en 2 ans. Impossible donc de planifier, de prendre des contrats sérieux. Impossible donc avec la propension au détournement, avec la propension au vol. Ces commissaires spéciaux donc, vont devoir vider le caisse et ça sera très compliqué. Et pourtant, ils n'ont lancé aucune base sur laquelle devrait venir poser le mandat de ceux qui vont bientôt postuler.
Très bien. Au-delà de cette publication du calendrier électoral, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce qu'on peut parler de la relance du processus électoral, rapidement.
Je ne vois pas comment cela est possible. Bon, je crois, on est déjà habitué à M. Labbé, M. Corneille Nangaa l'a dit, que cela n'est soumis qu'à une contrainte. La contrainte ici, c'est la révision du fichier électoral. Or, le fichier électoral tel qu'il a présenté, la révision ne pourra aller qu'au-delà de 2016. Donc, vous comprenez que la CENI est en train pratiquement de jouer le jeu du pouvoir, du glissement, pour qu'on aille au-delà des élections. Et cela a été très bien préparé, très bien imaginé, très bien calculé, et qu'il se retrouve dans une situation où il ne peut que jouer au jeu qui lui a été imposé comme...
Donc pour vous, on ne peut pas parler de processus électoral.
Il y a encore beaucoup de paramètres qu'il faille accomplir parce qu'il ne va pas partir, il ne va pas réviser le fichier électoral sans une loi qui devra fixer cela. Donc on devra encore attendre qu'une loi soit votée au Parlement, qu'elle soit promulguée par le chef de l'État, qu'il ait les moyens, qu'il ait une maison qui devra s'occuper de l'identification d'enrôlement de nouveaux électeurs. Et puis on ne va pas enrôler tout simplement une partie des nouveaux majeurs comme l'opposition qui a fait la passe au pouvoir, mais on va enrôler tout le monde parce qu'il n'y aura pas de cas qui seront présentés. Vous avez appris qu'au Rwanda ou au Burundi, il y a des usines de fabrication de cartes d'électeurs. Donc, en conséquence, il sera obligé d'enrôler tout le monde et cela va prendre le temps que ça va prendre. Et nous serons encore en train d'attendre nos frères qui sont au pouvoir, en train de nous chagriner, de nous matatiser.
D'accord. Alors, John, au regard de ce que dit Joël, est-ce que selon vous, on peut parler de la relance du processus électoral?
Non, pas encore. Pas encore, c'est... En fait, c'est...
Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait...
Non, pas encore. Mm-hmm. Ces élections, c'est juste pour remplir les vides de cette année. Mm-hmm. Donc, elles n'ont rien à voir avec le vrai processus électoral qui, lui, participe, comme Joël Cadet l'a relevé, du fichier électoral. Et le président de la CENI l'a dit clairement, et les experts le savent, ces fichiers, s'il faut qu'ils soient revisés, on doit aller au-delà de 2016. Donc voilà. Donc il faudrait la relance du processus électoral participe d'abord de la révision du fichier électoral.
Donc selon vous, pour parler de la relance du processus électoral, il faut prendre en compte la révision de ce fichier.
Absolument, parce que ces élections ici, c'est juste pour nous occuper un peu l'esprit, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec les vraies élections, parce que au terme des différents textes de loi, la Constitution, ainsi de suite, il fallait au préalable renouveler d'abord les électeurs des gouverneurs. Ils vont être élus par quel électorat? C'est des gens qui ont cumulé des mandats autant d'années. Et comme Jacques Cadet le disait tout à l'heure, ils vont transmettre leur illégitimité au nouveau gouverneur. Donc, je pense que ça ne servira à rien d'organiser ces élections. C'est simplement une perte d'argent supplémentaire. Parce que après, il faudra encore, lorsque on va organiser, lorsqu'on va organiser
les élections
locales et tout ça, et lorsqu'on a des députés provinciaux, que ces députés-là élisent de nouveaux gouverneurs. On aurait dû garder les commissaires spéciaux, consommons jusqu'à la vie. Là, c'était déjà posé. Alors, mais pourquoi encore chercher à élire des gouverneurs qu'on doit encore faire partir en ayant un an ou plus? Donc, pour moi, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une perte d'argent, c'est un non-événement. Donc, il n'y a pas une relance de créer du processus électoral. C'est juste l'arbre qui cache la forêt.
Et dans certains milieux, John, on dit que cette élection pose le problème de constitutionnalité des personnes qui sont élues. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, oui, bien sûr. Je le partage, mais je me dis que très bientôt, la Constitution n'existera même plus. Donc, c'est pas ça le plus grand problème, quoi. Alors, c'est pas ça le plus grand problème. Le plus grand problème se trouve ailleurs, parce que passé 2016, on ne pourra plus parler de Constitution, et on va passer 2016.
D'accord. Georges, vous avez entendu dans le reportage de Paul Matendo qui nous faisait remarquer que le président de la CENI a refusé de subir une quelconque pression à la suite de processus électoral. Qu'est-ce que vous en pensez au-delà de ce que les deux confrères viennent de dire tout à l'heure?
Voilà. Si le président de la CENI refuse les pressions, bon, je ne sais pas de la part de qui il reçoit ces pressions, mais c'est une déclaration aussi politique.
Il a dit qu'il reçoit la pression de la majorité et de l'opposition.
Bon, c'est justement ce que j'ai dit tantôt, qu'il faut réaffirmer l'indépendance de la centrale électorale. Dès qu'il réaffirme, dès qu'il laisse de recevoir les stratagèmes, soit de l'opposition, mettre la CENI à la disposition de l'opposition, comme mettre la CENI à la disposition de la majorité, c'est croire que la CENI s'appartient soit à la majorité, soit à l'opposition, c'est ce qui fait les troubles faits. Si la CENI, en âme et conscience, la main sur le cœur, trouve qu'il faut être indépendante, et nous pensons que la CENI va très bien travailler. Mais devant la CENI, il y a cette constitution qui est là, qui n'est pas encore abrogée. Donc la CENI doit tout faire, doit tout imaginer, doit tout, en tout ce qu'il faut faire, mais n'est pas sauté cette constitution qui a été votée au référendum par les souverains primaires. C'est ce que doit faire la CENI, mais même s'il y a des pressions de la part du pouvoir, même si de l'opposition, peu importe, mais la CENI n'a de compte à rendre qu'au peuple congolais d'abord, et puis à notre constitution qui est là. Mais avec l'avènement des élections des gouverneurs qui auront 5 ans, tantôt ce sont les députés provinciaux qui seront élus après les élections ici, même si ce n'est pas cette année, même si ça serait l'année prochaine, mais nous souhaitons que ça soit cette année. Mais ça va aussi poser un autre problème, qu'après l'installation des bureaux définitifs, il faut encore élection des gouverneurs. Vous voyez ce que ça fait, et nous pensons que la CENI travaille de mèche avec une tendance politique facile à imaginer dans ces pays, et nous ne voyons pas comment on peut refuser les pressions pendant qu'on est supposé être des mèches avec une tendance quelconque.
Alors, à vous entendre, vous tous, c'est comme si nous sommes en train de nous enliser, le processus est en train de s'enliser de lui-même. Quelle est, selon vous, la piste de sortie pour qu'on évite finalement cet enlisement? Quelle est votre solution?
Ma position est simple. Les élections de 2016, ça ne sera pas les dernières élections dans notre pays. Celui qui n'a pas sa carte d'électeur de 2011 doit rester à sa maison. Ceux qui ont des cartes d'électeur, allons voter les nouveaux présidents le 26 novembre 2016. Nous allons voter les députés provinciaux, les députés nationaux et les présidents le même jour avec les anciennes cartes. C'est tout. Il ne faut pas rester recherché de midi à 14h. Oh, même aux États-Unis, là où on est extrêmement informatisé, même en Inde dernièrement, l'Inde qui est la première puissance informatique du monde, nous avons connu des problèmes liés aux machines. Mais allons avec les mêmes anciennes cartes, même s'il y aura une faction de 10 000, 20 000 étrangers qui vont voter, mais pour au moins ne pas briser la case, pour ne pas brûler la maison. Avec ces cartes-là, allons voter. Avec ces fichiers corrompus, allons voter d'abord pour terminer ce problème.
D'accord.
Parce que dire qu'il faut 13 mois pour les enrôler encore, c'est aller au-delà. Mais qui va payer tout ce temps qui fait?
tout ce sang qui peut couler à cette occasion-là en attendant qu'on arrive là où on veut aller.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, John, quelle est votre piste de solution à vous? Vous avez entendu Georges dire qu'avec le même fichier, avec ceux qui ont les cartes d'électeur de 2011, qu'on aille voter. Quelle est votre position à vous pour éviter l'enlisement?
Bon, je comprends ce que Georges dit. Et si je vais jusqu'au bout de sa logique, nous allons tomber en plein dans une crise. Hein, parce que vous imaginez les cafouillages que cela va donner, les contestations que cela va donner. Et je suis presque sûr que, au lieu que ces élections, la série, puissent préparer un nouveau cadre des vies, nous allons peut-être reculer davantage.
D'accord.
Pour des raisons autres. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est consommé. Il n'est plus possible techniquement d'organiser de bonnes élections maintenant. Alors, il faut essayer de limiter les dégâts en acceptant de parler. Bon, on va dire dialogue, mais c'est pour des motivations autres. Parce que tout a été fait et au moment où cela s'est fait, les gens ont regardé, ils ont laissé passer. Aujourd'hui, les délais sont largement écoulés. Et on ne peut plus organiser de bonnes élections dans ces pays en cette année.
D'accord.
Donc, désolé, il faut maintenant aller au-delà, se dépasser pour essayer de régler d'abord ces problèmes en trouvant de nouvelles pistes des fonctionnements, y compris la CENI aussi, qui en réalité, à mon sens, ne fait pas partie de la solution. La CENI est déjà un problème elle-même.
D'accord. Alors, Joël Kadé, quelle est votre solution à vous, rapidement, parce qu'on va entrer déjà dans notre deuxième thème.
La solution, c'est que le gouvernement de la RDC s'assume autant comme l'a fait le gouvernement burundais, ougandais, rwandais, pour dire clairement que nous voulons la révision de la Constitution pour que le chef de l'État garde le pouvoir. Il ne faudrait pas qu'on y aille par des stratégies, des subterfuges, des alibis, du genre dialogue, c'est pour organiser les élections apaisées. Il n'y a cette volonté-là, ne s'affiche pas, il n'y a pas la volonté d'organiser les élections apaisées dans notre pays. Alors ce que nous demandons, qu'on s'affiche tout simplement au lieu d'être un peu comme des enfants, comme des irresponsables, on veut y aller par la ruse, on veut y aller d'une manière maligne pour obtenir une transition. Je crois qu'il faudrait que le camp du pouvoir puisse s'afficher, puisse s'aligner au lieu de dire Oumela, que les Oumela là, ils le disent. Mais nous sommes d'accord que le chef de l'État Oumela, mais dans son Oumelma là, qu'il puisse Oumela pour nous qui l'aimons, en dehors du pouvoir, il finit bien son mandat pour que nous conservions quand même les acquis de ce qu'il a laissé à ce pays, la démocratisation, la réunification, la
Merci.
Pacification, au lieu qu'on le colle, qu'on le prenne en otage par une classe politique mobutienne qui croit le prendre en otage comme Mobutu, pour de telle sorte qu'il reste toujours aux avantages avec leur Kabila.
Merci beaucoup Joël, c'était ça votre piste de solution. Et maintenant nous allons parler football. C'est le lundi 8 février dernier que les Léopards sont arrivés à Kinshasa à bord de l'avion affrété par le gouvernement pour leur retour au pays après leur victoire face au Mali dimanche au stade Amahoro de Kigali. Ils ont été décorés le mardi et ont présenté le trophée au Kinoa mercredi. Et au-delà de ce sacre de champion d'Afrique pour le CHAN, le sélectionneur des Léopards a déclaré que cette consécration ne doit pas léguer au second plan les échéances futures. Jean-Florent Ibengué le dit au micro de nos confrères de Top Congo FM.
Il faut toujours continuer à travailler d'arrache-pied. Au contraire, c'est même un défi de garder un peu la tête. Ça ne vous laisse pas le temps de dormir, en fait.
Non, il faut continuer à travailler. Il faut penser déjà, la prochaine séance est l'Angola. Donc, il faut continuer à travailler. On ne peut pas se reposer. Il faut se mettre en route. Et il faut aussi penser à nos dirigeants qui doivent nous aider encore plus. Pas seulement l'équipe actuelle, mais préparer nos victoires futures, notamment en introduisant le football à l'école.
Merci beaucoup à nos confrères de Top Congo FM. Alors, John, comment vous avez analysé ce sacre des Léopards?
Moi, déjà, au niveau de quart de finale, pour moi, je l'avais même dit sur ma page Facebook, c'était la victoire. Gagner face au Rwanda, c'était plus qu'une victoire du football. C'est très important pour nous. et puis la suite a suivi. Mais ce que moi je voudrais stigmatiser ici, c'est cette forme d'irresponsabilité caractéristique du gouvernement. Il y a pas longtemps, le gouvernement systématiquement a rationné son appui financier pour les disciplines sportives. Il y a à peine maintenant que le football et quelques... Il y a beaucoup de disciplines sportives pour lesquelles les jeunes gens ne savent plus s'exprimer. Même le football, lorsque les athlètes font les déplacements, mais c'est toute une misère. Mais après, vous allez voir la foule des gens qui veulent récupérer ça. Mais quand ces athlètes se préparent, personne n'est là pour les assister. Il manque de tout. Alors, soyons quand même sérieux. Hein, préparons-le à temps, donnons-leur le moyen. On gaspille trop d'argent pour ne rien faire. Et au lieu de l'investir dans la jeunesse, aujourd'hui, on s'est rendu compte que le football, c'est un sport unificateur.
Et vous pensez ?
Nous en avons besoin pour solidifier notre appartenance à la nation.
Voilà. Et vous pensez
ça
aussi...
Ça s'improvise pas, ça se prépare. Mm-hmm. Et il faut, je dois tirer mon chapeau pour Florent Ibengué et ces garçons qui, dans la discrétion et dans l'efficacité, réussissent toujours avec des maigres moyens qu'on lui donne d'ailleurs très difficilement. Donc moi je pense que il faut que cela soit plus structuré, qu'on donne aux athlètes les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent aller de l'avant. Il n'y a pas que le football, il y a plusieurs autres disciplines dans lesquelles
les
jeunes Congolais excellent, mais faute d'encadrement, ils vivent où ils sont déçus et puis ils arrêtent.
D'accord. Alors Georges, comment ce sacre a-t-il été vécu chez vous à Kindu?
L'histoire du Chan et la coupe que nous venons tous de gagner a très bien été accueillie. Bien qu'il n'y avait pas eu un reportage spécial sur ça, les gens ont vraiment jubilé, ont pris la route d'assaut, ils ont questionné. Et tout ce qui s'est passé à Kinshasa, vous savez que le peuple congolais, de par sa culture, sa façon d'agir, il n'est qu'un seul peuple, qu'il soit de Goma ou de Kindu ou de Lubumbashi. Vraiment, c'est avec l'ISFAS que la nouvelle a été accueillie seulement. On ne cessera de déplorer le fait qu'on continue à considérer Kinshasa comme étant la République démocratique du Congo. Donc, il y a des fois où on oublie que le Congo, c'est plusieurs provinces, plusieurs dizaines de villes, où les gens ont les mêmes sentiments, les mêmes soucis de voir, d'accueillir nos champions. On se contente de Kinshasa en croyant avoir tout fait pour tous les Congolais. Et en dehors de ça, c'est peut-être se poser la question... Pourquoi la victoire a toujours eu plusieurs papas pendant que l'échec reste orphelin? C'est ça, nous avons assisté, déploré les histoires du type grâce aux efforts de X ou de Y. Mais on n'a pas tout à fait remercié les présidents des clubs dont ces joueurs champions aujourd'hui sont, disons, sociétaires. On n'a pas remercié ces présidents des clubs. Ce sont ceux qui passent des nuits et des jours avec les enfants en les formant, en leur donnant des conseils pratiques, des histoires. Même le sélectionneur national, le français Florent Ibengué, il a pris ses joueurs qui dans les clubs, donc il a trouvé un peu avec de la valeur ajoutée. Mais on n'a pas vu l'endroit où on a remercié respectivement le président des clubs, pour ne pas dire Vita Club, Shark,
tout le monde.
C'est ça, il fallait aussi remercier ces héros dans l'homme, parce que c'est grâce à eux que ces joueurs ont été sélectionnés. Mais les victoires, maintenant, on commence à se les partager, c'est grâce à celui-ci, à celui-là. Mais il fallait aussi penser à ces héros-là.
D'accord. Alors, est-ce que vous partagez l'avis du sélectionneur Jean-Florent Ibengué qui affirme qu'il ne faut pas léguer au second plan les échéances futures? Il voit déjà la CAN en Angola l'année prochaine et même, pourquoi pas, le CHAN au Kenya en 2018 plutôt.
C'est ça l'avis d'un technicien, le technicien français Jean-Florent Ibengué. Il a la vision d'un fin technicien, c'est ce qu'il faut dire. Mais le moyen de la politique, est-ce qu'il y en aura? Bon, je pense qu'il fallait qu'il s'adresse directement aux responsables des clubs, parce que ce sont ceux qui encadrent ces joueurs jour et nuit. Il fallait adresser nos chers compatriotes de la LINAFOOT, vous les responsables des clubs, continuez, il ne faut pas baisser les bras, parce que c'est vous. Mais finalement, vous voyez, on recrute les joueurs sur base d'un championnat. Donc il faut que ces messages, que le propriétaire des clubs s'approprie cette vision, cette préoccupation des techniciens français.
Alors, Joël Cadet, vous avez regardé la CAN 2015, vous avez regardé le CHAN 2016. Quelle différence vous faites entre ces deux championnats qui se passent sur le même continent?
Non, il n'y a pas tellement de différence. Vous savez que le Seigneur Dieu a commencé un travail de réhabiliter l'honneur bafoué de la République démocratique du Congo. Vous savez, la RDC ou les Congolais, vivre Zaïrois, Mobutu le disait, c'est pas facile. Et on a été un objet de raillerie, un objet d'humiliation depuis 1996. Et que, à la CAN, il fallait démontrer la grandeur face au Congo-Brazzaville. Vous avez compris que c'était le match le plus important pour nous. Et après ce match-là, vous avez vu l'engouement que ça créait sous la ville. De même, le match contre l'Angola, au CHAN ici, et le match contre le Rwanda. Donc, Dieu éternel est en train de réhabiliter l'honneur bafoué du Congo. Et John Gombala dit que la victoire remportée au Rwanda n'a rien à voir à techniquement avec le sport. Ça allait au-delà des enjeux politiques, ça allait au-delà des enjeux spirituels, où celui qui vous a humilié, celui par qui vos malheurs sont venus, celui par qui il y a eu des massacres, il y a eu des génocides ici en RDC, que la même personne soit utilisée que sur une terre étrangère, qu'on puisse entonner des chansons à ta gloire et que cette personne-là puisse prendre la coupe pour vous la remettre. Mais malheureusement, au retour de cette coupe, on a pris en otage, on a emprisonné et les joueurs et Florent Ibengue, qu'on a vite amené comme s'il s'agissait d'un cadavre qu'on a amené à la morgue, qu'on a vite amené directement au fleuve Congo Hôtel, tout simplement parce qu'on avait besoin de quelques chansons. Et le pouvoir a raté l'occasion de cette spontanéité-là, hein, cette spontanéité de se réconcilier, de dialoguer avec son peuple. Il fallait qu'on laisse les joueurs rentrer, et, en tout cas, fêter avec la population dans cette spontanéité-là, au lieu de le prendre. Et puis, la mesure qui a été prise par les commissaires provincial de la police reposait sur quel soubassement administratif? Vous savez qu'en science administrative, la ville est gérée par le maire, et tout simplement, la ville de Kinshasa, on a toujours dit que non, c'est une ville-province. Moi, j'ai toujours dit que c'est une ville, parce que notre Kimbuta participe à des réunions de maires francophones. C'est une ville, mais avant que les commissaires, avant que la police ne sorte, il faudrait qu'il y ait un arrêt provincial qui demandait aux gens de ne pas fêter sur la route. Et pourquoi on peut sortir comme ça? Et s'il y avait eu des dégâts, donc on aurait responsabilisé les commissaires. Pourquoi on demande trop au commissaire Kanyama, au général Kanyama? Pourquoi on lui demande trop comme ça? Les opérations, c'est lui qui en donne les noms et c'est lui qui en exécute seul. Je pense qu'il y a lieu que notre Kimbuta reprenne sa place. D'accord. De gouverneur, de maire de cette ville.
Et on va finir avec une petite question à tous les trois, à vous de le déterminer. Dans les milieux sportifs, on affirme que Jean-Florent Ibengue, le sélectionneur de la RDC, en même temps sélectionneur ou entraîneur de Vita Club, est le meilleur entraîneur en Afrique. Vous partagez cet avis?
Il est parmi les 50 nominés au niveau mondial. Et comment ne pas le reconnaître en République démocratique du Congo? Il a déjà amené pratiquement la coupe, je crois, avec il a été demi-finaliste au niveau de la Ligue des Champions. Il a été troisième avec l'équipe nationale,
avec la CAN.
Maintenant, il est champion et le Vert Club est en train d'aller plus loin. Je crois qu'il y a lieu de le féliciter, de reconnaître que la valeur se trouve dans notre pays et que nos autorités devront respecter la valeur locale au lieu toujours de se faire voir comme si ils sont au service des étrangers. Merci. Alors qu'il y a des valeurs au niveau national.
Et ce sera aussi votre conclusion. Alors, John Gombois, est-ce que selon vous, Jean-Florent Ibengue est le meilleur sélectionneur ou le meilleur entraîneur en Afrique? Rapidement.
Oui, pour moi, il n'y a pas photo, c'est bien lui.
Merci. Ce sera aussi votre conclusion. Georges Kassongo, quel est votre rapport par rapport à ce débat? Est-ce que Florent Ibengue est le meilleur en Afrique?
Bon, pour les trois dernières années, Florent Ibengue a fait une montée spectaculaire, mais les classés, les premiers, c'est vraiment aller trop vite en besogne.
Merci beaucoup et c'est par ici que la tribune de presse prend fin. Jean-Claude Ntial a été aux commandes techniques. L'équipe rédactionnelle, les coordinations étaient assurées par Alain Irung. Supervision Julien Nyamouini et Berry Franklin Luchaka vous l'a présenté. Retrouvez cette émission sur votre site www.radiocapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.